Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa, 4h30 temps universel.
RFI Matin.
Et l'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU est en République démocratique du Congo.
Jean-Pierre Lacroix à Kinshasa pour parler du futur et du présent de la MONUSCO, force onusienne dont la RDC souhaite le départ, mais qui aujourd'hui est toujours présente, notamment dans les régions de l'Est congolais. La MONUSCO présente et volontaire à prendre part aux efforts de paix. Dans ce journal également, la coordination des organisations musulmanes de Centrafrique. Elle dénonce des exactions commises par d'anciens miliciens intégrés dans l'armée. Le bilan des inondations au Tchad est désormais estimé à 487 morts. On vous expliquera la situation du sucre au Burundi, sucre qui coûte désormais plus cher dans un marché ouvert le mois dernier à la concurrence privée. Et vous entendrez l'opposant comorien Mohamed Ali Swalihi, ancien vice-président. Il parle de gestes répréhensibles mais compréhensibles, dit-il, en raison du contexte de tension aujourd'hui dans l'archipel après que le président Azali Assoumani a été poignardé et légèrement blessé en fin de semaine dernière. Kinshasa d'abord, l'Est, ensuite avec le Nord Kivu et l'Ituri. Jean-Pierre Lacroix est en République démocratique du Congo pour une semaine. Le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le grand chef donc de la MONUSCO, la force onusienne déployée en RDC. Et c'est justement de la MONUSCO, de son mandat, de son retrait voulu par Kinshasa qu'il sera question lors de cette semaine. Correspondance de Patient Ligodi.
Cette visite intervient dans un contexte particulier où les tensions persistent dans l'est de la RDC. La mission onusienne a achevé en juin la première phase de son désengagement conformément à l'accord avec le gouvernement congolais en se retirant du Sud Kivu. Lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie congolaise, Jean-Pierre Lacroix a discuté des moyens par lesquels les Nations Unies peuvent continuer à soutenir les efforts de paix dirigés par João Lourenço visant à résoudre le conflit entre Kinshasa et Kigali. La tâche reste complexe pour la médiation angolaise, comme le reconnaît le chef du département des opérations de paix des Nations Unies.
C'est un processus qui comprend beaucoup d'enjeux, des sujets difficiles. Il est normal que les discussions soient approfondies et parfois suscitent des divisions, mais nous sommes fortement engagés à soutenir ces efforts de paix de la part des Nations Unies.
Jean-Pierre Lacroix rencontrera également les responsables de la mission de la SADC, SAMI-RDC, au Nord Kivu. Début août, le Conseil de sécurité a autorisé la MONUSCO à fournir un appui logistique à cette force. L'une des questions centrales de cette étape est de savoir comment cet appui se concrétise dans un contexte où la communauté internationale privilégie les pourparlers de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'Angola. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Un retrait militaire qui lui est désormais total, c'est celui de l'armée américaine au Niger, alors que Washington avait fermé sa dernière base dans le pays le mois dernier. Les États-Unis font savoir que tout s'est passé sans complication et que tout leur personnel militaire est désormais hors du Niger, conformément aux souhaits exprimés par les militaires au pouvoir à Niamey. Le mois dernier, également, c'est l'Allemagne qui a achevé le retrait de ses troupes hors du pays. Pour revenir en République démocratique du Congo, on apprend la mort d'au moins 4 des passagers d'une baleinière qui avait fait naufrage avant-hier dans la province de Kwango, c'est dans le sud-ouest du pays. Le vice-gouverneur de la province assure que près de 80 personnes ont pu être sauvées, alors que les témoignages font état de plus de 150 passagers au total. Sachez aussi que l'ambassadeur congolais à Bruxelles a été convoqué par les autorités belges. La Belgique qui proteste après la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo la semaine dernière. Ce citoyen belge condamné dans le procès de l'attaque du 19 mai dernier à Kinshasa, considéré comme une tentative de coup d'État par les autorités congolaises, des autorités pour qui Jean-Jacques Wondo est le concepteur de cette attaque. En Centrafrique, la coordination des organisations musulmanes du pays, la COMOUC, dénonce des exactions commises par d'anciens miliciens intégrés à l'armée centrafricaine et entraînés par les mercenaires de Wagner, des hommes donc issus du groupe d'autodéfense Azande Anik Pigbe et qui, d'après Ali Ousmane, le coordinateur de la COMUC, s'en prennent aux musulmans dans la région de Zemio, province du Haut-Mbomou, c'est dans le sud-est de la Centrafrique. Et le coordinateur de l'organisation musulmane demande le remplacement de ces soldats par un autre détachement de l'armée. Il demande aussi le remplacement du sous-préfet de la ville, qui serait lui aussi issu de cette milice.
Pour planter le décor, c'est depuis le mois de juillet 2024. Donc, il y a eu beaucoup d'exactions qui se sont déroulées là-bas, à savoir meurtre, assassinat, viol, arrestation, séquestration arbitraire, torture, vol, extorsion de l'argent, massacre de bœufs en vue de découler la viande dans la ville pour la vente illégale, enlèvement de moutons, etc., etc., j'en passe. Maintenant, ils sont allés pour opérer au nom des forces armées centrafricaines. Nous devons avoir entre eux, c'est-à-dire un détachement de FACA plus hétérogène et républicaine. Mais ça, c'est une milice à base ethnique qui est restée et qui sont allés là-bas sur place. Et il se trouve que le sous-préfet là-bas, qui est là sur place, lui-même est ressortissant des émirs, récusé par les musulmans de sa localité, à cause de son appartenance à cette milice-là. Il serait l'un des responsables et l'un des protagonistes de la crise intercommunautaire des émirs. Et nous demandons à ce que la milice puisse faire des patrouilles dans la ville pour sécuriser le quartier musulman contre toute agression et exaction.
Ali Ousmane de la coordination des organisations musulmanes de Centrafrique, joint par François Mazé. Les intempéries se poursuivent et les chiffres ne cessent d'augmenter. Au Tchad, le dernier bilan des inondations de ces dernières semaines fait état désormais de 487 morts et près d'1 700 000 personnes affectées. C'est quasiment tout le pays qui est touché, en particulier les régions du lac Tchad, du sud et de l'est. À N'Djamena, la capitale, on compte 13 morts et plus de 60 000 sinistrés. Et la ville souffre de son organisation, ou plutôt de sa désorganisation, explique l'urbaniste Tobone Dilbé, enseignant-chercheur à l'université d'Abéché.
Il y a un système de gestion qui doit s'accompagner pour permettre effectivement à ces réseaux-là de pouvoir jouer leur rôle de façon optimale. En ce sens qu'il y a très peu de dépotoirs officiels et les populations n'ont pas d'autre choix que de pouvoir créer ces dépotoirs spontanés à l'air libre avec le contexte climatique fait de vents et de précipitations, d'ouvrages qui ne sont pas totalement couverts également. Donc la somme de ces situations fera en sorte que ces réseaux vont se combler de façon systématique, imposant leur curage à chaque approche de saison de pluie pour pouvoir désengorger la situation.
L'urbaniste tchadien Tobone Dilbé, l'invité hier de Nicolas Sur, une ville qui est encore en partie sous les eaux, non loin de N'Djamena, c'est Maïdougouri, au Nigeria, après la rupture d'un barrage la semaine dernière. Notre invité Afrique ce matin, c'est Mohamed Malik Fall, le sous-secrétaire général de l'ONU, coordinateur résident au Nigeria. Il revient tout juste de Maïdougouri et raconte la situation sur place, où les dégâts des eaux viennent s'ajouter à des années d'insécurité et de présence notamment des djihadistes de Boko Haram. Entretien à retrouver sur RFI.fr et vous pourrez en entendre un premier extrait dans quelques minutes. Elle dit ne rien avoir vu de similaire en 30 ans de travail humanitaire. C'est la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population, l'américaine Leila Becker. Elle a pu se rendre au Soudan dernièrement, ce pays où la guerre entre le président de la transition, le général Al-Burhan, et son ex numéro 2, le général Emeti. Cette guerre est entrée ce week-end dans son 18e mois et ces derniers jours, des combats étaient encore signalés à Khartoum et dans les régions du Darfour et du Kordofan, ainsi que dans l'état d'Al-Jazira, c'est au sud de Khartoum. Au Burundi, il est toujours aussi difficile de trouver du sucre et celui-ci est même de plus en plus cher. Le sucre burundais produit par une entreprise unique, la Sosumo, société sucrière du Mosso, et dont le prix a longtemps été contrôlé face à une pénurie. Cependant, les autorités de Gitega ont décidé le mois dernier de libéraliser le marché et d'autoriser donc des entreprises privées sur le secteur. Et premier effet, une augmentation des prix, nous explique Esdras Ndikouman.
La production de la société sucrière du Mosso s'est effondrée au cours des 10 dernières années. Elle est passée de 23 000 tonnes en 2015 à 10 000 tonnes aujourd'hui. Entre-temps, le nombre de consommateurs a explosé sur fond de manque de devises pour en importer. Conséquence, le Burundi fait face à une sévère pénurie de sucre depuis des années. Il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement a donc décidé de libéraliser totalement son commerce pour y remédier. Les importateurs privés ont tout de suite augmenté leurs prix. La Sosumo, de loin le premier fournisseur du marché burundais, vient à son tour de revoir à la hausse le prix de son sucre qu'il a pratiquement multiplié par 3 et passe de 3 300 à 8 000 francs burundais. C'est pour s'aligner sur les prix des importateurs privés et pour tenir compte de notre coût de production, justifie le patron de cette entreprise, le général Aloïs Naïké Ngouroukié, qui promet de multiplier par deux sa production sucrière. Au grand dam de la population burundaise, qui a vu les prix de tous les biens de première nécessité exploser au cours des trois dernières années, même si, et c'est un ouf de soulagement dans toute cette grisaille, le carburant est de nouveau disponible après des mois de pénurie.
Dans l'actualité ce matin également, Madagascar, où la commission électorale souhaite prolonger d'une semaine la période de dépôt des candidatures avant les élections municipales. Normalement, c'est après-demain, jeudi, que cette période doit s'achever. Mais les candidats se font rares. Moins de 80 dossiers ont été déposés sur les près de 1700 communes de la Grande Île. Ces propos du président kényan et le démenti de l'Allemagne, William Ruto, de retour d'un déplacement à Berlin. À propos d'un partenariat signé avec l'Allemagne, il affirme que le texte doit sécuriser 250 000 emplois pour les jeunes diplômés kényans. Réponse immédiate du ministre de l'Intérieur allemand qui précise qu'aucun chiffre ou quota n'est en fait prévu. Enfin, les Comores, après l'agression au couteau qui a visé le président Azali Assoumani vendredi, le chef de l'État officiellement légèrement blessé, qui devrait reprendre un agenda normal aujourd'hui. Une situation qui fait réagir l'ancien vice-président comorien Mohamed Ali Swalihi, aujourd'hui dans l'opposition. Il n'excuse pas les faits, mais il estime qu'on peut les comprendre.
L'acte en lui-même est répréhensible, c'est regrettable, mais compte tenu de l'environnement, de tensions politiques, de malgouvernance économique, sociale, politique, il est évident que le climat qui prévaut actuellement aux Comores, on peut très bien comprendre des gestes comme celui-là, un acte comme celui-là. C'est en cela que moi j'explique ce geste répréhensible, mais un geste qui s'inscrit dans la logique d'un climat d'oppression et de répression du régime du colonel Azali Assoumani.
L'opposant comorien Mohamed Ali Swalihi à Moroni, où il est maintenant 7h42 et vous êtes avec Arnaud.